السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشايخ خير، مشايخ سوء الإسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir dans sa masjid Bayt min Buyutillah pour un moment important, car dans un instant un croyant, un mu'min Bilal, va dire oui à une mu'mina, à une croyante Fatia, et par ce muwafaqa, ce qaboul, par cette acceptation, ils vont donc concrétiser le muhabba, l'amour qui existe entre les personnes qui veulent se marier, mais ils vont également compléter la moitié de la foi, car comme on l'a maintes fois répété dans différents discours à l'attention des jeunes mariés, à l'attention des personnes déjà mariées, à l'attention surtout des jeunes qui ne se sont pas encore mariés, le nikah c'est la moitié de la foi. Le nikah apporte une sérénité, une quiétude, une tranquillité dans le cœur. Le nikah nous protège de toute catégorie de péchés, des péchés qui peuvent remettre en cause le iman. Le seul péché qui enlève le iman du cœur du musulman, c'est le zina. Wala taqrabu az-zina. C'est un des seuls péchés de le Coran. Il y en aura peut-être d'autres, il faut rechercher dans les tafsirs. C'est un des seuls péchés de le Coran à propos duquel Allah Azza wa Jal n'a pas demandé aux croyants de ne pas l'accomplir, mais de ne pas même s'en approcher. Parce que ça, c'est grave. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est néfaste. Tant sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Le iman quitte le corps d'un croyant qui est de ce péché. Alors maintenant, pour revenir au positif, d'accord, quand un jeune ne stresse pas, quand un jeune se marie, subhanallah, il complète la moitié de son iman. C'est pour ça que c'est un moment extrêmement important pour le muhabba, l'entendre, parce que nous restons des êtres humains. On se marie avec des gens, avec une personne qu'on aime, quelqu'un qui nous plaît physiquement, mais par ce geste, on va compléter, inshallah, notre iman. Mes chers frères et sœurs en islam, le nikah, c'est que du bonheur à la base. Le nikah, ce n'est que du bonheur, que de la baraka à la base. C'est-à-dire quand quelqu'un va faire son nikah, subhanallah, la personne va rentrer, va mettre en pratique une action qui est sunna. Et quand on dit qu'une action est sunna, cette action elle a été pratiquée par Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ordonné par Allah Azza wa Jal. À partir du moment où Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on répète bien sûr sallallahu alayhi wa sallam, de accomplir une action, c'est qu'il y a un khair, il y a un grand bien pour l'être humain, pour la race humaine, dans le fait de répéter cette action à travers les générations. Il y a un bien pour chaque être humain dans le nikah, précisément sur le plan spirituel par rapport au iman. Et ça, c'est un thème qui doit être développé. Il y a un bien pour l'être humain dans le nikah sur le plan physique. Et ça se comprend. Physiquement, l'homme a des besoins, la femme également a des besoins, et le nikah permet d'aller dans ce sens et de ne pas contrer la fitra, l'innéité. Il n'y a rien de pire que de contrer ce qui est naturel, ce qui est instinctif dans l'être humain, parce que Allah Rabbul Izza, le créateur de la machine humaine, le créateur du corps humain, sait exactement ce qu'il faut à l'homme pour son physique, pour son mental et pour son iman, pour sa foi. Et le nikah également, ce n'est que de la baraka, que du bonheur, parce à la base bien sûr, parce que le nikah est conforme à la fitra, le terme qu'on vient d'utiliser. La fitra, c'est l'innéité, ce qui est naturel et instinctif chez l'homme. Comme on a dit, Allah Azza wa Jal, quand il crée l'homme, il sait comment l'homme est fait. Allah sait les besoins de l'homme sur le plan physique, on le répétera, sur le plan psychologique. Stabilité psychologique ne rime pas forcément avec la santé physique. Quelqu'un peut être en excellente santé, pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout, aucun problème, mais ne pas être stable psychologiquement. Ou une personne peut être stable psychologiquement, mais avoir avec ça énormément de problèmes de santé. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il instaure le nikah, pour tous les anbiya, et là c'est pas un hasard, Ce n'est pas juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, il a encouragé « Ya ma'ashar al-shabab, oh les jeunes, mariez-vous ». C'est tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, quel est le seul prophète qui ne s'est pas marié sur la terre? Si tu réponds, raccourci de 10 minutes le bayan et tu auras ta femme dans tes bras 10 minutes plus tôt. 3 secondes. Isa alayhi salam, on avait dit la semaine dernière, si ce n'est pas un mariage, mon camarade. Isa alayhi salam, il reviendra à la fin des temps, il se mariera, parce que chaque prophète venu sur la terre doit mettre cette sunnate en pratique. Et également, quand on parlait sur le côté psychologique, subhanallah, les savants disent, hein, c'est un exemple qu'on a déjà donné, quand Allah Azza wa Jal crée Adam alayhi salam, le premier homme, Adam lorsqu'il a été créé, il habite où? Dans ce dunya ou dans le paradis? Dans le paradis. Est-ce que dans le Jannah, quelqu'un a besoin de quoi que ce soit? Là, Allah, tu es dans le paradis, mon frère. Enjoy, tu as tout ce qu'il faut. Mais Allah Azza wa Jal a créé la femme, Hawa, alayha salam, parce qu'Allah Azza wa Jal, comme on a dit, créateur de la machine humaine, sait que même si les conditions sont réunies, les conditions du bonheur, de l'épanouissement sont réunies, l'homme ne trouvera la sérénité, la quiétude, qu'à partir du moment où il aura sa moitié, qu'il aura une conjointe, une femme auprès de lui. Grande sagesse, grande hikmah qu'il y a dans le mariage. D'où le verset وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et certains savants disent que cette racine sakana, ça vient de sakina, la tranquillité, la quiétude. Également pour notre vie, on va dire mondaine, sur le plan matériel pur, le nikah est source de baraka. Et là encore, on va dire, c'est à l'encontre de tout ce que les scientifiques, les économistes, hein, les spécialistes de l'économie mondiale, on a vu qu'est-ce qu'ils en ont fait d'ailleurs, à l'encontre de tout ce qu'ils peuvent dire, le nikah est source de baraka, d'où le verset de lequel Allah Azza wa Jal dit « In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli » que dans le cas où, hein, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais il faut, en ce sens, qu'ils se marient quand même, laissez-les se marier, et « yughnihimullahu » ça vient de « rina » de « rani », Allah Azza wa Jal accordera la richesse, les biens à cette personne. Dans le nikah, il y a « baraka » promesse. Allah s'engage à mettre la baraka sur le plan financier dans le couple, dans l'union de deux personnes. Et également pour l'ensemble de la création, parce que le nikah assure le renouvellement des générations. Et c'est une des grandes sagesses également du mariage, le renouvellement des générations. Je n'avais expliqué la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour des comptes, il sera fier de voir sa communauté plus nombreuse que les autres communautés. On pourrait dire que voyez la grande sagesse qu'il y a de l'unicard, et quand nous entendons maintes et maintes débats qu'il y a à droite et à gauche concernant l'exception des gens, le genre de thèse qu'ils tirent, et qu'on parle, hein, on le dit de manière très claire, quand on parle de mariage homosexuel par exemple, posez la question à ceux qui sollicitent ou qui cautionnent ce mariage, le mariage homosexuel, est-ce que le renouvellement des générations est assuré? Demandez à la personne qui défend cette idéologie fermement, que si ton père avait adhéré à ce principe, est-ce que tu serais là à te dandiner, à réclamer des droits qu'Allah ne t'a pas donné? Hikmat d'Allah, que le nikah permet le renouvellement des générations. Le concubinage n'assure pas le renouvellement des générations. Pourquoi? Parce que même s'il y a naissance avec le concubinage, il n'y a pas d'engagement entre l'homme et la femme. Du jour au lendemain, la femme peut être abandonnée et l'enfant abandonné. Il n'y a pas la nafaqa, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'équité. Tout ça pour résumer la hikmah d'Allah, la grande sagesse qu'il y a dans le nikah. Ce n'est pas juste quelques phrases, une demande et une acceptation qu'on va faire. C'est un engagement devant Allah. C'est la mise en pratique d'une sunna universelle, mise en pratique donc par tous les anbiya alayhim salatu wassalam. Mes chers frères et sœurs en islam, le nikah est basé sur deux types d'amour. L'amour pour Allah et ensuite l'amour entre les conjoints. Dans un précédent nikah, on avait expliqué deux points. Les devoirs de l'homme et la femme envers Allah et ensuite les devoirs mutuels entre l'homme et la femme. Là, c'est autre chose. Parce que dans un cœur, subhanallah, le cœur de l'homme doit être capable de gérer plusieurs catégories d'amour. Aimer Allah, aimer ses parents, aimer sa famille, aimer son épouse. Tout ça, c'est « hubb » en arabe. C'est l'amour également en langue française et dans toutes les langues. Maintenant, quand on est pris un peu, comme un jeune marié, dans le tourbillon de l'amour, parfois on ne voit plus que l'être aimé. Et on a besoin de nous rappeler que quels sont les autres amours, muhabba, prioritaires. également quand on est jeune marié, on est souvent pris de debout de bras. Mais dans ce cas-là, on apprécie. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier, et c'est là un rappel pour toutes les personnes dans l'assemblée, pas uniquement pour la personne qui se marie, que le plus grand amour doit être consacré à Allah Azza wa Jal. L'amour pour Allah, ça dépasse l'amour qu'on a pour un être humain. Ça, il n'y a pas de divergence, parce que cet amour, le mot amour, seul point commun, c'est Allah, le mot. Mais le madmoun, ce que veut dire le terme amour pour Allah Azza wa Jal, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans les relations avec les makhlouqat. Très souvent, on dit un musulman, il doit aimer Allah. On parle d'amour d'Allah. Mais est-ce qu'on a déjà donné une définition? Est-ce que moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire aimer Allah? Est-ce que aimer Allah, c'est juste dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Oui, ça fait partie. Aimer Allah, c'est avant tout proclamer l'unicité d'Allah. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Est-ce que aimer Allah, c'est lié à le kalima, c'est faire ces cinq salats uniquement? Il y a de ça, c'est une manifestation de l'amour d'Allah, les ibadah, mais ça ne se limite pas à ça. Ça, c'est des choses très loin à développer. On va dire juste les grands titres. Hein. L'amour d'Allah, l'amour pour Allah, c'est un amour de ta'a, un amour d'obéissance à Allah Azza wa Jal. De telle sorte que quand je dis que j'aime Allah, je suis ses ordres. Je ne peux pas dire que je suis musulman, j'aime Allah, mais après demain je vais danser, je vais boire, je vais sortir avec un tel, je vais fumer un pétard, je vais faire telle et telle chose. Ce serait incohérent. Soit j'aime Allah, soit il n'y a pas d'amour d'Allah dans mon cœur. Mais si j'aime Allah Azza wa Jal, c'est un amour de ta'a qui doit me mener vers l'obéissance aux ordres d'Allah. Grande thématique qu'on ne développera pas par Muhabba, également pour Bilal. L'amour d'Allah, c'est un amour de taqwa, un amour de piété. Et c'est quoi la piété? Les savants donnent une magnifique définition de piété. C'est, ô croyant, ne te mets jamais dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Et en commentaire, d'autres savants disent, dans quelle situation Allah serait mécontent de moi si, premièrement, je néglige un devoir, la salah ou d'autres obligations, l'obéissance envers les parents ou autre obligation, ou alors si j'accomplis un péché, c'est-à-dire je sors des limites. Et là aussi, on ne va pas refaire la religion, refaire le dîn, refaire toute la tarbiya, le ta'lim, mais beaucoup de gens pensent que être un bon musulman, c'est faire de bonnes actions. Ils n'ont pas compris que être un bon croyant, c'est faire de bonnes actions, mais également s'éloigner du haram. Autrement, c'est comme si on fait deux pas en avant et deux pas en arrière. Tout en sachant qu'il y a parfois des péchés extrêmement lourds en conséquence qui peuvent annuler des années de bonnes actions cumulées. Alors dans le mois de Ramadan, par exemple, qui s'est terminé il y a deux mois, j'ai fait un pas de géant, subhanallah, je me suis démené durant un mois, j'ai fait des bonnes œuvres, je me rapproche d'Allah, mais après le Ramadan, si je retourne, je donne des exemples de péchés très lourds en conséquence, vers l'adultère, où mon iman quitte mon corps, la jalousie, quelque chose de beaucoup plus subtil. Je peux être, mashallah, barbu, machin, alim ou autre, mais si j'ai la jalousie dans mon cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, attention, la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume les brindilles. Ça, c'est grave, ça. La rupture de relation avec les proches, ça fait partie des péchés destructeurs des a'mal. La désobéissance envers les parents, et ainsi de suite, ce sont, mes chers frères, des péchés, juste pour avoir une idée que être un bon croyant, c'est accomplissement de bonnes œuvres, mais c'est également rester éloigné du haram. Donc, l'amour pour Allah, c'est un amour de ta'a, comme on a dit, d'obéissance, c'est également un amour de taqwa, où on fait preuve de piété. C'est un amour de muraqaba. Muraqaba de le sens shari'i, où on a une pensée permanente d'Allah de notre cœur. Et ça, franchement, celui qui a réalisé c'est quoi le muraqabatullah, son chemin est tracé. Son chemin, bi'idhnillah, est tracé. Parce que celui qui a développé le muraqabatullah dans son cœur, c'est qu'à chaque moment de sa vie, il pense à Allah Rabbul Izzah. Ce qui fait qu'à aucun moment, il ne serait tenté de désobéir à Allah par le fait de délaisser une obligation ou alors d'accomplir un péché. Alors que celui qui, parfois, il regarde ce qu'il ne doit pas regarder, il écoute ce qu'il ne doit pas écouter, il fait ce qu'il ne doit pas faire, c'est quelqu'un qui, pendant ce laps de temps, a fait preuve de rafla. Rafla, c'est quoi? C'est de l'insouciance. Rafla, ça, c'est la pire des choses. Quand l'insouciance s'installe dans le cœur, c'est que ce cœur ne pense plus à Allah. Et ça, c'est la source de tous les maux. C'est à l'origine de tous les problèmes. Regarde-le, Bilal. C'est le plus grand des problèmes que de faire preuve de rafla d'insouciance. C'est le contraire de muraqabatullah. Donc, amour pour Allah, c'est un amour de muraqaba, penser à Allah à tout moment. C'est un amour de dhikr. C'est que tant qu'on a la possibilité de citer, de dire le nom d'Allah, on le fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous lier à Allah Azza wa Jal. L'amour pour Allah, c'est un amour de khawf, de crainte. Et c'est un amour de raja, d'espoir. On dit crainte, on dit pas peur, bien sûr. Crainte d'Allah, c'est à tout moment, je suis persuadé que si je dépasse les limites, je vais encourir à la colère d'Allah, et ça, c'est pas bien. Et de raja, raja, c'est l'espoir. Bonne nouvelle pour toute la famille Raja, c'est l'espoir. C'est un nom porteur de messages extrêmement positifs. Le Raja en Allah, c'est que dans toutes les situations de ma vie, même si j'ai fait des erreurs, à partir du moment où je regrette sincèrement et que mon cœur est propre, je veux revenir vers Allah, j'ai Al-Raja, j'ai l'espoir qu'Allah Azza wa Jal est Ghafur Rahim, pardonneur, clément, miséricordieux. L'amour pour Allah, c'est développer Al-Khawf wa Al-Raja en même temps donc dans le cœur. L'amour pour Allah, c'est un amour de satisfaction, de rida, d'être satisfait de toutes les décisions d'Allah, de kaboul, d'accepter tout ce qui nous arrive dans le destin. Tout ça, mes chers frères, ça fait partie de l'amour pour Allah. Alors maintenant, nous devons voir, est-ce que je suis à 80%, à 20%, à 10%, ou je m'étais juste limité au pilier de l'islam. Parce que aimer Allah, c'est un ibadah dans le cœur. Il y a des actes d'adoration qui sont faits avec al-jawarih, les membres, les actions qu'on connaît. Et puis il y a les a'mal qalbi, il y a les a'mal qui sont faits dans le cœur. Aimer Allah, c'est quelque chose d'intérieur. Et tout ce qu'on vient de dire là, ce sont des choses qui se passent au niveau du cœur. Mais celui qui a pu réunir ces conditions, subhanallah, il devient un mu'min. C'est là qu'il devient un réel croyant, parce que son cœur sera rempli d'amour pour Allah. Et quand on a réuni tout ça, on arrive au summum, c'est al-istislam. Tamam al-istislam lillah. Se soumettre totalement à Allah. Une soumission complète à Allah Azza wa Jal. Devenir un vrai musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui est soumis à Allah Azza wa Jal. Donc chaque croyant, je le répète en conclusion de cette thématique, doit comprendre que l'amour pour Allah dépasse de loin l'amour qu'on peut avoir pour notre épouse, pour nos parents, pour nos proches, pour nos amis, ainsi de suite. Parce que là, on a vu la définition du mot amour, c'est quelque chose qui est spécifique à Allah, Azza wa Jal, qui est donc synonyme d'obéissance et d'adoration, de ta'a, de ibad. Le deuxième amour, Bilal, qu'on doit développer dans le cœur, c'est l'amour pour... Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime trop. Direct l'amour pour l'épouse, ça viendra. L'amour pour le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi. On va dire en français, vous n'aurez jamais le vrai iman. Et ça, c'est ajib, cette introduction. La yu'minu ahadukum. Jamais vous n'atteindrez réellement le iman, la foi. Alors que nous, on se targue d'être des bons musulmans, des modèles pour l'humanité même parfois. Vous n'aurez jamais le vrai iman tant que vous ne m'aimerez pas, Rassam qui parle, plus que vos enfants, que vos parents et que toutes les personnes qui vous entourent. Et comment, on va être un petit peu plus rapide, comment se manifeste cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là aussi, il y a des gens qui disent que j'aime mon prophète. Maintenant, est-ce que dans sa vie, on voit l'attachement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si on commence par délaisser l'ensemble des sunnas, dites-moi, où est muhabba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Aimer le prophète, c'est pas juste le dire. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas juste faire des salats ala al-Nabi, lire les durud sharif. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre sa sunnah dans notre vie, en pratique. C'est-à-dire s'imprégner de son mode de vie concernant les bonnes actions, bien sûr, concernant également les actes du quotidien. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit au quotidien? On essaie d'adopter ce mode de vie et également le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec tout le monde. Parce que maintenant, il serait trop facile de dire que je suis un bon croyant, voyez ma panoplie. Hein, parfois même, ça peut être un déguisement de croyant quand le fond ne suit pas. Ce n'est plus une panoplie, c'est un déguisement de croyant. Et que ma relation avec mon épouse, elle est catastrophique, limite Cro-Magnon. Ma relation avec mes parents, c'est inacceptable. Mon comportement dans la société, quand les gens me voient, ils n'ont pas envie de connaître le dîn, ils n'ont pas envie de connaître l'islam. Alors même si j'ai la barbe Guinness Record, si j'ai les plus beaux vêtements, je me parfume de la meilleure des façons, j'ai des diplômes, j'ai Coran dans mon cœur, je ne suis pas encore un vrai croyant parce que je suis passé à côté de l'essentiel. Ittiba an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas uniquement dans les adhkar, dans les ibadah, et également dans le comportement, dans le akhlaq. La troisième catégorie d'amour qu'on doit développer dans le cœur Bilal, c'est maintenant, c'est, il ne peut plus essayer, c'est l'amour pour les parents, même pas. L'amour, c'est ce que tu as dit, l'amour pour les parents. Barakallah fik. Ne jamais oublier, mes chers frères et sœurs, c'est pour tout le monde, hein, alhamdulillah, tant qu'on a un papa ou une maman vivant ou vivante, Allahu Akbar, ni'ma min Allah, ce discours nous est adressé, et quand je parle, c'est moi qui entends en premier. Ne jamais oublier le sacrifice des parents. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à ce que tu sois là près de ce banc et que ton nikah va être accompli. Depuis le point A jusqu'à le point N, nikah, il y a un mujahada, un sacrifice. Il y a une histoire qui a été construite, bi'idhnillah, par un papa et une maman. C'est pour ça que l'enfant reste l'enfant à 29, à 40, à 50, à 60 ans, tant que les parents sont encore vivants. Il y a juste à analyser cette métaphore quand le prophète dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Ajib. Il y a que tant que tu n'as pas la satisfaction, le contentement de ta maman, le paradis, les portes du paradis ne s'ouvrent pas. Ça rejoint une version qui fait un peu plus peur. La yatrulul jannah ta'aqa. La personne qui désobéit à ses parents, la yatrulul jannah, n'entre pas au jannah, n'entre pas dans le paradis. Même si on était les meilleurs adorateurs d'Allah, même si on était les plus grands savants, les plus grands qari, hafid al-Qur'an, sans l'accord, sans, subhanallah, le contentement de la maman, le paradis ne nous accepte pas. Le paradis ne nous accepte pas. Le paradis ne nous accepte pas. Il faut que ça rentre dans nos cœurs. Quand on voit ces jeunes en rupture, quelles que soient les raisons, elles sont mauvaises. Avec leurs parents, je voulais dire. Quand on a des jeunes qui sont en rupture avec leurs parents, quelle que soit la raison, elle est de toute façon mauvaise. Quelle que soit votre position, vous êtes de toute façon perdant devant Allah. On n'aura jamais raison face à nos parents. Parce que même s'ils ont tort, on doit faire en sorte qu'ils ne voient pas, qu'ils ne le ressentent pas. Parce que le cœur d'une maman, le cœur d'un papa, ça c'est tout ça. Et si on ne va pas rentrer dans d'autres débats, ce n'est pas pour rien, c'est de le Coran. Allah Ta'ala dit « Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ». Premièrement, l'ordre de l'unicité d'Allah. « Wa bil walidayni ihsana ». Immédiatement après le tawhid. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de musulman. S'il n'y a pas l'unicité d'Allah, il n'y a même pas besoin de parler. Immédiatement après l'unicité d'Allah, il y a al-ihsan, le fait d'être bienfaisant, bien agir avec les parents. C'est pour les jeunes, c'est pour les moins jeunes, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et le prophète dit également, le doigt d'un papa fait partie des doigts qui ne sont pas refusés par Allah. Le prophète te donne une porte de sortie, quel que soit le problème de ta vie, dis à ton papa, fais doigt. Le droit d'un père, le droit d'un papa est accepté par Allah Azza wa Jal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne qui l'a promis. On continue. Quatrième catégorie d'amour qu'on doit développer, c'est l'amour pour la famille, les liens qu'on appelle en arabe silatul rahim. Silatul rahim, c'est faire en sorte que dans la famille, il y a muhabba. Bilal, tu as, mashallah, deux frères. On a Imran, on a Salih. Imran, socialien, mais il mérite le respect quand même. Tu as des tontons, cousins, etc. Ton épouse aussi, mashallah, a une grande famille. Il faut faire en sorte qu'il y ait un muhabba sincère et permanent au sein de la famille. Que la personne ait raison, que le tonton, le beau-frère, la garde de travers, le cousin. Allahu Akbar, combien de temps on vit de le dunya? T'as déjà vu un fan, t'as déjà enterré quelqu'un, mais quand on l'enterre là, est-ce qu'il continue à dire aux anges, mais lis le beau-frère, quand en 1988 il a dit ça, il a fait ça, c'est fini tout ça. Quand on pose le corps dans la tombe, c'est les a'mal qui viennent, et là on se rend compte qu'on a perdu notre temps à essayer de régler des conflits que le cœur humain n'accepte pas, parce que le cœur humain ne va pas vers le muhabba. Il faut le forcer, et la seule chose qui peut forcer un cœur à aller vers l'entente, vers le muhabba, c'est le iman. Donc ça c'est un point, un muhabba également à ne pas oublier. Et il y a bien sûr le muhabba, l'amour pour son épouse. Est-ce qu'il y a nécessité d'expliquer l'amour à un amoureux? Je pense qu'un amoureux connaît plus que quiconque les mots doux et les coquineries qui viennent avec. Il n'y a pas nécessité. Mais quand même, juste une petite analyse de
trois actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait au quotidien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait sa maison pour aller faire la salat à la masjid, qu'est-ce qu'il faisait d'après toi Bilal? Il embrassait sa femme. À chaque fois qu'il quittait sa maison pour aller à la masjid, il embrassait Aïcha radiallahu anha et il allait à la masjid. Qui le fait? Les jeunes, les moins jeunes, même la Saint-Valentin qu'on ne fête pas, je crains que certains ne le font pas. On se contente d'une rose, d'un, je sais pas, un chocolat, je sais pas quoi, mais qui, chaque salat, khamsa marrat, même Fajr, madame brosse dedans ça, même le matin Fajr, il a fini son amas et tout, bref, tu sais, salat, le poisson embrasse sa femme. Ça c'est ajib ça. Et quand il retournait chez lui, la première chose qu'il faisait en rentrant dans sa maison, c'était le miswak. Pourquoi? Pour que lorsqu'il va voir sa femme, il va parler avec sa femme, la laine, c'est toujours agréable, mais qu'il n'incommode pas quelqu'un au cas où s'il y avait une mauvaise odeur qui émanait de sa bouche. Ça, c'était l'amour et le respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour sa femme. Le prophète avait l'habitude d'appeler sa femme par des mots doux. Et ça, c'est une sunna qui touche les cœurs. Quand le prophète appelait Aïcha, on l'avait dit de le passer, il ne l'appelait pas Aïcha, il appelait Aïch. C'est un diminutif, hein, c'est une preuve de muhabba. Maintenant, quelles que soient les langues, chacun doit trouver les termes qu'il faut, mais faire en sorte que, quelle est la première chose que la femme entend quand on parle, c'est quand, la manière qu'on va l'interpeller. Dès les premiers mots, quand on l'interpelle, elle doit déjà sentir à travers cette manière de l'interpeller que mon mari m'aime, que mon mari me respecte. Et troisième point, donner du temps à sa femme. Le prophète sallam, une fois, hein, il revenait à sa maison, Aïcha radiallahu anha, l'avait raconté une histoire qui était longue, Mon Abbas, une fois, qui a dit, il y a 4 ans, il avait cité le hadith, qui était très long également, et le prophète sallam avait écouté Aïcha, qui avait raconté un long récit, à aucun moment, il ne l'a interrompu. Ni n'a demandé, ton histoire durera encore à peu près combien de temps, estimatif, juste pour savoir comment j'organise le reste de ma journée, question hein, d'organisation, de management. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté Aïcha radiallahu anha jusqu'à la fin, ça c'est sabr, ça c'est montrer la reconnaissance également. Ça c'est un point mes chers frères et sœurs extrêmement important, donner du temps. Vous savez, il n'y a rien qui rapproche les cœurs, qui renforce le muhabba comme le temps qu'on consacre à sa femme au quotidien. Ça c'est beaucoup mieux qu'un bouquet de fleurs une fois de temps, qu'un voyage, je ne sais pas, à Maurice ou en Thaïlande une fois par an. Donner du temps à sa femme, c'est quelque chose qui touche le cœur de l'épouse et ça renforce le muhabba sincèrement et non pas avec des objets. C'est pas un amour platonique, c'est un amour Allah Akbar prophétique, c'est un amour comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec Aïcha radallahu anha. On va terminer Bilal avec quelques conseils. Tu me donnes encore 5 minutes, de toute façon tu n'as pas le choix. Encore 5 minutes Inch'Allah. On a vu l'amour pour les parents, voilà quelques conseils. Alors, tout d'abord, et ça c'est pas pour les nouveaux mariés, c'est pour ceux qui sont mariés depuis le temps, hein, un an, deux ans ou plus encore, il faut faire toujours attention à tout ce qui peut détourner l'amour de le couple. Hein, attention parfois aux interactions qui viennent de l'extérieur, aux mauvaises influences, aux mauvais conseillers. Il y en a qui disent à la femme, non, ben, si ton mari tu dis ça, réponds comme ça. Ou quelqu'un qui dit au mari, non, ben, ta femme elle fait ci, fait ça, tu ne dois pas la laisser, c'est toi qui commandes. Non, suivez la sunna, regardez comment le prophète sallam était bienfaisant envers sa femme et suivez votre cœur. Parce que si dans ce cœur il y a de l'amour pour cette personne, suivez cet amour. Et quand vous voyez qu'il y a autre chose qui vient, qui s'installe, lisez A'udhu billahi minash shaitan rajim. Attention également, et ça c'est général, on ne veut pas dresser un tableau en noir et blanc ou en noir et gris même. Attention à la méchanceté des gens, c'est une réalité. Le prophète a mis en garde sa communauté également contre le sihr, la sorcellerie qui est un grand fléau dans notre communauté. Et la meilleure des choses pour éviter tout ça, c'est les doigts de protection à lire matin et soir. C'est mieux que le tavise qu'on porte, qu'on télécharge ou qu'on se grave ou qu'on se tatoue, les doigts de protection à lire matin et soir avec conviction et ikhlas, c'est la meilleure des protections contre le sihr, contre la sorcellerie qu'on appelle le djihadou. Attention également au mauvais regard, hein, il faut se protéger également. Les savants disent que la meilleure façon de se protéger, ici on appelle ça le nazar. Nazar, d'accord, le mauvais regard. La meilleure façon de se protéger du mauvais regard, ça concerne un nouveau marié, ça concerne n'importe quelle personne, quel que soit le bienfait qu'on a, ne pas faire étalage des bienfaits. Il ne faut pas montrer de manière ostentatoire tout ce qu'on a fièrement, parce que quelqu'un qui n'a pas et qui a une faiblesse de la foi, parce que quelqu'un qui peut-être démuni, mais un iman solide. Qana'a, satisfait de ce qu'Allah lui a donné, ça rejoint Hubbullah, accepter ce qu'Allah m'a donné. Bref, quelqu'un qui ne l'a pas, et quelqu'un qui peut être pauvre, mais avoir la satisfaction de son cœur, il voit ton bien, dit Masha'Allah, Allah t'a donné, tant mieux pour toi, Allah ne m'a pas donné, Allah est juste. Il n'y aura aucune conséquence. Maintenant, une personne qui n'a pas ce degré de iman, cette formation spirituelle, il va voir un bienfait, il va avoir un regard qui sera négatif. Ce n'est pas de la superstition. C'est tout sauf de la superstition. Si vous voulez, je ménage ça sur vous et vous allez voir. Si quelqu'un a bien fait. Et François m'a dit qu'il y a des gens comme ça, il y a des personnes, c'est peut-être dû à la faiblesse de l'iman, qui ont un regard néfaste. Alors la meilleure solution, c'est de ne pas faire étalage des bienfaits. Et là je parle, pas pour Bilal, mais d'une manière générale, je n'arrive pas à comprendre, je ne conçois toujours pas, qu'un jeune couple se marie, musulman, musulmane, et ils vont mettre leur photo sur Facebook. Photo le monsieur et le madame sur Facebook. Déjà de un, est-ce que ça te dérange pas que tous les hommes voient la beauté de ta femme? Enfin, je ne sais pas, une question de cohérence, d'amour propre. On appelle ça en arabe le rira. Deuxièmement, il n'y a pas meilleure façon que de s'attirer le mauvais regard. Tu montres à tout le monde que tu es heureux comme ça et que tu es avec ta femme. Et l'autre, et depuis qu'il n'arrive pas à se marier ou il a des problèmes de couple, il y a des gros soucis, assurément on va s'attirer des problèmes. Et ensuite, on va aller à la recherche de traitements, de solutions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus d'entente et ainsi de suite. Bref, ne pas, et ça c'est une solution intelligente aussi. Ne pas faire étalage de bienfaits et ne pas être ostentatoire, dans les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés. Et dernier conseil, d'accord, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le temps, attention à ces aspirateurs de temps. Notre société est organisée autour d'un monde virtuel. Il y a Facebook, comme on a dit, il y a Twitter, il y a également la télé, les chaînes paraboliques, il y en a tellement que très souvent l'homme rentre à la maison, le monsieur, le mari, ils vont manger rapidement ensemble, et puis le monsieur devant son Champions League, la femme devant ses feuilletons brésiliens, il n'y a plus de dialogue dans le couple. Il n'y a plus de communication de le couple, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus ce papa et cette maman qui s'assoit auprès du petit garçon, la petite fille qui dit qu'est-ce que tu as appris à l'école, montre-moi ton cahier, montre-moi tes devoirs. Ce mohabba et l'enfant, il se sent encouragé, soutenu par ses parents, il ne sera jamais en échec scolaire parce qu'il sait que mes parents me soutiennent, ils me suivent, ils m'aiment et ainsi de suite. Il y a eu le temps consacré à la femme, consacré aux enfants, mes chers frères et sœurs, c'est essentiel. Ne laissons pas ce monde virtuel absorber ce temps qui est vraiment la plus belle chose qu'on peut donner à nos proches. Et ne jamais oublier, Bilal, que se marier, c'est s'engager à respecter wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit le Coran, ayez un bon comportement, respectez, agissez de manière correcte envers elle, c'est-à-dire envers la femme. Et il ne faut pas oublier que, également de l'autre sens, du côté de l'épouse, également, le Prophète m'a dit, la première chose à propos de laquelle une femme sera questionnée le jour de Qiyamah, ce sera ses 5 salats, ses 5 prières. ثُمَّ عَنْ بَعْلِهَا كَيْفَ فَعَلَتْ إِلَيْهِ. Ensuite, à propos de son mari, comment est-ce qu'elle avait agi avec son mari dans ce dunya. Et on n'oublie pas, ça c'est pas tout le monde l'objectif final, c'est ce verset qui est magnifique, qui nous fait rêver, qu'on citera et on continuera à citer dans tous les bayan nikah, inshallah. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أزواجهم وذرياتهم. C'est un verset magnifique dans lequel Allah décrit les gens du paradis qui se retrouvent ensemble. L'homme avec son épouse, avec ses parents, avec ses enfants, ils sont tous dans le Jannah, mais la condition c'était وَمَنْ صَلَحَ, c'est-à-dire celui qui avait les qualités de iman pour accéder au paradis. N'est-ce pas là le rêve de chaque croyant que de se retrouver à l'âge de 33 ans avec sa femme, ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses proches, et avec des cœurs purs où il n'y a plus rien de négatif et profiter des bienfaits éternels qu'Allah a donné. Ce chemin nous est promis à partir du moment où on va respecter les ordres d'Allah et les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal mette beaucoup de baraka, de bénédiction dans ce couple, dans cette union, dans ce nikah, ainsi que dans les nikah qui existent déjà. Qu'Allah azza wa jal vous accorde un pieuse génération, des enfants pieux qui seront la fraîcheur de vos yeux, la fraîcheur des yeux de tes parents également, des parents de la fille des deux côtés, et que ce seront des porte-drapeaux, on va dire, de l'étendard de l'islam, des gens qui vont réincarner le iman, et qu'Allah Azza wa Jal permette aux personnes qui ont quelques difficultés dans leur mariage de retrouver, inshallah, la stabilité, et ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah Azza wa Jal ouvre leur taqdir, ouvre leur destin, et qu'Allah leur accorde, inshallah, l'épouse vertueuse qu'ils méritent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.